Parole d'auteur. Une émission de Monique Fauché.
On les voit dans les vergers l'été, dans les champs, dans les vignes qui cueillent, ramassent, transportent. Ils y règnent comme un parfum de vacances pour ceux qui passent en voiture et les voient depuis la route. Et pourtant non, pour eux, il ne s'agit pas de vacances mais de travail. Travail temporaire, épuisant, peu payé, par tous les temps, logement précaire et pas d'avenir. Il s'agit des travailleurs saisonniers. L'auteur de ce roman nous avait fait partager la vie d'une femme au milieu des marins-pêcheurs en Alaska. Et dans ce nouveau roman, également marqué par sa propre expérience, nous faisons la connaissance des travailleurs saisonniers, leur vie, leurs peines, leurs amours. Ce roman intitulé « Le cœur blanc » est édité par les éditions de l'Olivier et j'ai le grand plaisir d'accueillir son auteur, Catherine Poulain. Catherine Poulain, bonjour.
Bonjour.
On ne connaît pas les travailleurs saisonniers. En fait, on ne les connaît pas. Il y a peu d'écrits, peut-être quelques sociologues, mais je n'ai pas connaissance. Ils ne se manifestent pas. Est-ce qu'ils se considèrent vraiment comme les rebuts, comme les fruits à un moment donné, il y en a un qui dit on est comme les fruits que l'on doit jeter parce qu'ils sont abîmés.
Alors j'étais saisonnière agricole pendant des années, j'ai beaucoup, beaucoup aimé cette vie. Une impression de liberté, la vie immédiate et toujours ce monde physique, la nature. Dans la nature. J'ai eu envie de parler justement de ce premier univers comme l'univers de la pêche, dont j'ai parlé dans le premier livre. Avant tout, je veux dire que c'est mon regard à moi. Et je sais que saisonnière, étant saisonnière, parfois j'ai eu ce sentiment d'être un fruit du rebut.
C'était le regard des autres ?
C'était par rapport aux conditions parfois, mais il n'y avait pas que ça. Il y avait aussi ce bonheur, cette rage d'être vivante sous le soleil.
On en parlera de ça, on le sent, ça vous le dites beaucoup. Mais dites-moi, quand même, les saisonniers, ils sont indispensables à l'agriculture française.
Oui, ils sont indispensables. Et je pense que...
Paraît-il que ça représente plus de 800 000 projets de recrutement en 2018. C'est énorme.
Oui, oui.
Oui, alors oui, pourquoi justement ce statut qui n'est pas vraiment bien reconnu par la population, peut-être pas par les propriétaires, hein, je n'en sais rien.
Alors je dois dire avant tout, ce livre, j'ai quand même replacé mes saisonniers entre les années 86 et peut-être 96, on sait sur 10 ans.
Et ça s'est amélioré depuis
Justement parce qu'aujourd'hui je ne connais plus la situation des saisonniers. Donc j'en ai très peu parlé, mais j'ai eu besoin quand même pour être juste, parce que les saisonniers d'aujourd'hui, je ne sais pas exactement, mais c'était les saisonniers d'une époque. Oui.
Et ce dont vous parlez, alors, c'est donc le fruit d'une expérience, c'est votre mémoire, ce sont des histoires entendues.
Je suis partie d'un vécu, de sensations, de ce désir toujours de plus grande brûlure avec ce soleil et ces étés flamboyants. Je me suis cette fois, je vais vraiment écrire une fiction. Parler de l'embrasement d'un été et je vais faire monter en tension jusqu'à ce que tout explose, tout bascule. Donc c'est avant tout maintenant une fiction, mais c'est vrai, je me suis nourrie de ma propre vie.
Oui, oui, on le sent parce qu'il y a quand même des détails qui ne trompent pas. C'est très curieux en vous voyant, Catherine, vous êtes toute menue, vous avez une voix très douce et on se dit, mais elle choisit des métiers qu'on qualifierait de métiers d'homme, de métiers rudes. Pourquoi ?
Eh bien, j'aime ces métiers physiques parce qu'on est en contact avec le monde qui pour moi est réel, c'est le monde physique de la nature, les saisons, lorsque j'étais sur les bateaux, l'océan, les grandes puissances de la nature à ce moment-là.
Ça ne vous fait pas peur ?
Oh non, c'était comme entrer dans le jeu, faire partie du grand jeu, être un petit animal parmi toutes ces forces et tous ces autres petits animaux que sont...
Vous vous sentiez exister ?
Oui, exister, c'est ça, exister.
D'accord.
Exister de tout mon corps et donc de toute mon âme aussi.
Oui. Là, c'est pas l'océan furieux, c'est la Provence. Et Dieu sait que la Provence est belle. Moi, j'ai de la famille à Manosque et vous parlez de Fort Calquier. Vous êtes dans dans ce côté-là. La nature omniprésente, elle est belle, âpre, rude. Vous la décrivez admirablement. Alors, pour commencer, j'aimerais bien... Il y a deux textes que j'ai choisis, mais peut-être que vous en choisirez un autre si vous voulez. Hein. En particulier, à la page 160, et vous parlez justement de, cette, de ce qui fait la beauté des lieux. Voilà, page 160.
Nous avons eu très chaud les jours passés. Un orage a éclaté, il fait meilleur. Les criquets posés sur les cajots de fruits, empilés entre nous tous, les retours du travail quand plus personne ne parle à l'arrière de la camionnette, qu'à l'horizon l'astre d'or en se couchant a laissé des traînées de feu sur la fresque immense du ciel, reflétant le même coucher de soleil sur les abricots et nos joues veloutées dans nos yeux lumineux. Parfois nous finissons tard. Coincés entre les caisses, on voit la lune sortir de derrière les montagnes. On mange encore de ces fruits qui nous font très mal au ventre. On fume, on est harassé. On a grelotté quand c'était l'aube, on a eu très chaud après. Si chaud qu'on pensait en mourir. On tremble de froid à nouveau, la journée se termine, la boucle est bouclée. Le crépuscule a pris le zénith. La route est longue et l'on sait que l'on n'aura pas la force de se laver beaucoup ce soir. Manger peut-être, tous iront boire, on a eu si soif. On rit parce qu'on n'en peut plus et qu'on avance dans les ténèbres, seul au monde, quelle histoire de fou. Les bars nous attendent, des cœurs fidèles dans la nuit, et avec eux la bière et le corps des vivants, les paillettes amères de notre élixir, la voix des humains, l'odeur lourde des glycines au-dessus des terrasses, l'herbe sèche et craquante pour ceux qui vont rouler derrière la digue ce soir.
On va reparler de la dureté du travail, on va reparler de la... De ce qui se passe après. Mais quand je vous entends, je me dis, vous n'êtes pas peintre.
Ah, ça c'est un beau... C'est une belle remarque. J'aurais aimé peindre aussi. J'ai aimé sculpter. Et lorsque j'étais très jeune, je me disais, ma vie, il faut que je l'écrive, il faut que ce soit le livre, il faut aussi que ce soit la peinture, il faut que ce soit une sculpture. Il faut que de tout mon corps, parce que je voyais aussi la peinture comme quelque chose de physique, se donner un corps perdu et avec son corps peindre peut-être. Et je me suis fallait que ma vie soit et une sculpture et une peinture et un livre.
Oui.
Les images sont très très importantes parce que les images, c'est aussi le ressenti, mais ça devient du ressenti aussi physique. C'est tout se tient en fait.
Vous savez, c'est étonnant parce qu'en ce moment, il y a une rétrospective des films de Sergio Leone et il y a des commentaires très très beaux dans certaines revues. Et on parle de cette façon de voir la nature de Sergio Leone, qui, j'ai pensé à vous, j'étais en plein dans votre ouvrage, et je me suis dit, mais c'est tout à fait ça. Et par exemple, allez, faites-moi plaisir, à la page 69-70 aussi, il y a une belle description, et on a l'impression, dans le fond, c'est comme dans les westerns où on voit cette nature, et on existe là-dedans. Alors, page 69-70, voyons... Je vous fais travailler, là.
70.
69, donc.
Oui.
C'est une manière de décrire à la manière... Alors, je parlais de peintre, mais à la manière d'un cinéaste aussi. Alors, on regarde, pardon. Oui.
Rien ne frémit dans l'air. Où se cachent les vivants? Un homme est assis sur le premier banc de la promenade. Il tourne le dos à la grande place, nu sous la lumière. Devant lui, la rivière, le parking en terre des jours de marché, le chemin sec et poudreux. Voilà, pense-t-il, le feu blanc du ciel va peut-être nous tuer. Mais je délire encore. Un jour, il y aura l'automne, fini la saison fauve, envoyé au rencard de ce qui a été et nous aura brûlé, va jaunir et pâlir. Des chiens errent. Ils semblent tomber morts lorsqu'ils s'abattent sur le goudron brûlant, flanc offert au soleil. Un enfant surgit de derrière le pont. Le cuivre de ses cheveux flamboie dans l'air bleu. Il traîne les pieds. Indécis, il s'arrête et regarde le ciel, puis la poussière et le ciel à nouveau. Le petit mufle sale est empli de colère. Il repart, se dirige vers le lavoir. Là, il y fait de l'ombre. Il saute sur la margelle, Accroupeton, il boit longuement au robinet. Le débit est puissant, l'eau froide éclabousse, il rit, les lèvres entrouvertes. Un léger rictus au coin de sa bouche découvre des canines très blanches, très pointues. Il boit jusqu'à perdre souffle. Dans son cou, des boucles humides sont restées collées. Il saute à terre, donne un coup de pied dans une boîte de néocodione défoncée, puis disparaît derrière le remblai de roches. Les cigales hurlent dans les grands saules, le bruit de crécelles folles va en s'amplifiant dans la chaleur qui se fait plus dense. Les arbres assoupis, seules quelques branches frissonnent encore. Va jaunir et pâlir. Les abricots ramassés sera presque la fin de l'été, le commencement de sa faim. L'ardeur usée, la fatigue aura tout nivelé. Déjà les jours raccourciront et bien trop vite. On parlera des vendanges. On fera des prédictions en regardant grossir les minuscules olives. C'est un peu de l'hiver que l'on ramènera déjà, que l'on tirera à nous comme la couverture des longues nuits à venir, la saison chagrin que l'on introduira peu à peu dans nos têtes brûlées de soleil, nos têtes brûlées.
Voilà, on est sous le charme de votre écriture et de votre lecture, parce que vous lisez fort bien, ce qui n'est pas donné à tous les auteurs. Oui, voyez, en vous écoutant, là aussi, je me disais, mais c'est ça, on est dans le film, on est dans l'action, on est dans le paysage, on est dans votre roman. Oui, évidemment, on va en reparler aussi. Comme dans Le Grand Marin, on retrouve la violence, ce combat pour vivre ou pour survivre. Et il y a aussi ce travail dur dont vous avez dit aimer cette dureté, parce qu'il y a les intempéries, il y a le travail physique. Comment faisiez-vous d'ailleurs pour résister quand je vois votre taille, votre minceur? Je me dis, quelle force!
Oh, j'ai perdu beaucoup de force depuis l'Alaska, parce qu'il y a quand même 14 ans. Mais la force, en fait, on l'a construit. Mais vous savez que lorsque j'étais saisonnière, à cette période, c'est vrai, je mangeais pas de viande. Et je me nourrissais de fruits et de légumes et de... Et j'étais légère, mais j'étais souple, j'étais très, très résistante. J'étais résistante, ouais. Et je pouvais tenir, ouais, très, très longtemps. La résistance, en fait, n'a rien à voir avec le...
Ça se passe dans la tête.
C'est beaucoup dans la tête. Ouais. Et des muscles longs et noueux sont parfois très, très, peuvent être extrêmement, extrêmement...
Alors, je parle de physique, mais je parle aussi de cette tension qu'il y a toujours, que vous décrivez si bien dans votre ouvrage, cette tension qu'il y a parce qu'il y a toujours un sentiment d'urgence. En particulier, d'urgence parce que il y a les saisons, il y a le mûrissement et le risque de pourrissement des fruits, entre autres. Donc, il faut faire vite, toujours.
Oui, et c'est la nature. Dans la nature, tout est dans l'urgence. Et mes personnages sont toujours sont presque des petits animaux eux-mêmes. Ils vivent dans l'immédiat. Ce qui est désir aussi, est assez immédiat aussi, c'est toujours cette urgence d'être... l'urgence du désir, l'urgence de la soif, l'urgence du... Et l'urgence de la nature aussi, lorsque le feu prend, c'est une... Dans le pays.
C'est intéressant. Là, je trouve ce que vous dites, que vous notez, finalement, ces hommes, ces femmes, on va parler de ces deux femmes, sont dans l'urgence, comme si la vie allait s'arrêter d'un coup.
J'ai toujours eu ce sentiment d'urgence dans la vie depuis la petite enfance. La vie était une course et qu'il ne faut pas s'arrêter de courir. Si on s'arrête, on risque de tomber. Et si on tombe, on ne se relèvera plus et on manquera. On est peut-être mort. De toute façon, on est peut-être mort demain. Donc, on est peut-être mort l'heure suivante. Donc, c'était toujours, toujours, la vie était une urgence. Et aussi lorsqu'on...
Mais dans cette urgence, on peut se brûler les ailes. Il y a d'ailleurs certains, c'est ce qui arrive à certains d'entre eux.
Oui, c'est ça qui est beau aussi. C'est toujours ce mythe d'Icare, on voudrait être Icare qui... Mais enfin, lorsqu'on sait comme il finit, c'est... Ouais. Et on tente quand même, C'est une...
Alors, il y a deux femmes qui ont vraiment des cheminements différents. D'abord, elles n'ont pas exactement le même âge. L'une vient du nord, l'autre vient du sud, avec les caractéristiques de l'une et de l'autre, en définitive. Qu'est-ce qui les rassemble, qu'est-ce qui les sépare?
Alors, je pense qu'au fond, elle cherche la même chose, elle cherche un feu toujours plus grand. Ce qui les sépare, tout. Leur passé n'a rien à voir, elles n'ont rien de commun. Mais ce sont des femmes toutes les deux, ce sont des êtres humains et tout se retrouve toujours.
Toujours en proie toutes les deux au désir des hommes, parce que c'est un milieu d'hommes dans lequel elles évoluent.
Oui, oui. Mais ça c'est la nature, dans la nature, le mâle désire toujours la femelle, le bélier désirera toujours la petite brebis, et de préférence la jeune anouche.
Oui, et il y en a une, donc on ne connaît pas le passé, mais on se dit, il s'est passé quelque chose dans sa vie. Bon, au lecteur, dans le fond, vous laissez le lecteur libre d'imaginer ce qui a pu se passer, parce que elle, contrairement à la jeune Mounia, elle, Rosalinde, qui vient du Nord, qui vient peut-être d'Allemagne même, on a l'impression qu'elle est sans espoir, sans illusion.
Oui, c'est vrai. Rosalinde, je ne sais pas moi-même qu'est-ce qui lui est vraiment arrivé.
Mais j'aimais ce mystère.
Oui, mais j'aimais ce mystère parce que pour moi aussi, c'était une personne qui arrivait avec sa propre vie. Comme j'ai rencontré beaucoup de ces gens lorsque j'étais sur la route, je faisais les saisons, et c'était ça qui était beau, c'est les gens ont un passé qu'on ne connaît pas forcément, qu'on ne connaîtra pas, et qui font leur mystère. Et oui, et j'ai choisi que Mounia soit la narratrice justement parce qu'elle n'a pas ce... Elle est plus simple. Elle n'a pas ce passé, et puis elle n'a pas ce désespoir.
Oui. Oui, elle est, parce que Rosalinde, en fait, on se dit, elle est toujours ou dans le trop ou le pas assez.
Oui. Ce vide qui l'engloutit et ce trop qui la tue.
Ce qu'elle dit, et alors, quant à Mounia, en y réfléchissant, vous voyez... En construisant mon interview, je me disais, en définitive, elle est à la fois la proie et la conquérante.
Rosalinde ?
Oui.
Oui. Oui. Elle est proie parce que c'est un petit gibier, parce qu'elle est comme un petit gibier des bois, parce qu'au début, elle a peur, elle a cette peur parfois qui revient et qui l'a tout au début de l'histoire, mais malgré tout, elle se veut libre. Et elle sait que comme toute bête sauvage, les bêtes ont peur. Une bête sauvage sait qu'elle risque de mourir, qu'il y a un prédateur et qu'elle risque de... Mais une bête sauvage est une bête sauvage et c'est ça qui fait sa force aussi.
Oui, elle a peur et elle est toujours dans la fuite. Toujours dans la fuite.
Oui.
Ouais. Elle dit à un moment donné, toujours ces chagrins premiers qui vous font, vous défont, pense Rosalinde. Les rêves brisés, les espoirs saccagés, tout ce en quoi l'on croyait, que l'on aimait, le beau, le puissant, la flamme, tout cela renvoyé au chaos, au rebut, au broyeur d'un camion d'ordures.
Oui.
C'est fort. Oui. Quant à Mounia, l'Algérienne aux yeux verts, bon, elle est plus jeune et elle croit encore, elle croit encore un ailleurs plus beau.
Et oui, et puis elle a une certaine naïveté peut-être, elle se retient toujours de pleurer, elle se mord la lèvre parce que, mais elle veut, c'est très important, mes personnages ont presque tous un problème avec la mémoire et leurs racines et leur passé, et qu'est-ce qu'ils vont faire de leur, accomplir leur propre vie, et la petite Mounia est courageuse parce qu'elle veut aller voir, elle veut les retrouver, c'est aller à la base de son drame peut-être, du drame de sa famille, elle veut le connaître, elle veut essayer de recoller les morceaux, quoi. Est-ce que c'est possible? Mais elle, au moins, elle veut essayer.
Parce que vous pensez que tous ceux qui ont choisi ce mode de vie ont peut-être en effet une fêlure à la base?
Oh non, pas du tout. Là, justement, j'ai choisi des personnages qui, justement, trois d'entre eux ont des fêlures.
Oui,
Césario est bien, tient bien... Enfin, la tête bien posée sur les épaules, c'est un grand sage. Mais justement, j'ai choisi ces personnages, je me dis, ils vont très bien. C'est très bien qu'ils arrivent là, c'est normal, ce sont des saisonniers, ils arrivent... Étant saisonnière, j'ai vu ces gens qui arrivaient d'un peu partout, qui avaient des vies parfois un peu recollées, un peu... Voilà, donc là, j'en ai trois qui ont débarqué.
Oui, oui, parce que alors, moi, je me disais... Quand même, ce choix de mode de vie où quand même on se fait mal, on dort mal, on mange mal, on... Bon, c'est quand même étonnant, étonnant. Alors, évidemment, c'est une sédentaire qui vous parle.
Oui. J'ai... Que puis-je vous dire? C'est vrai que j'aimais cette vie immédiate.
C'est fascinant,
mais je l'ai
ça.
Déjà dit, j'aimais cette... Puis le corps, c'est encore le corps qui est vivant, c'est le corps qui... Mais c'est vrai que je me suis fatiguée des saisons en France et je suis partie les faire à l'étranger au bout d'un moment.
Oui.
Dans des pays encore plus vastes
on,
et encore plus...
On parlera de ce goût d'ailleurs, justement. On va faire une pause musicale. Alors, je ne sais pas si c'est la Saudade chantée par Cesaria Ivoria. C'est vous qui l'avez choisie. Et vous oui. en parlez d'ailleurs dans le livre. C'est une très belle chanson, effectivement.
Monique Fauché.
Nous retrouvons Catherine Poulain, venue nous parler de son second ouvrage, Le Cœur Blanc, paru aux éditions de l'Olivier. Catherine, Le Cœur Blanc, qu'est-ce que c'est Le Cœur Blanc?
Alors, pendant longtemps, j'ai cru que c'était... Comment dire? J'ai une amie algérienne qui me parle parfois, qui est musulmane, et qui me parle parfois de certaines personnes, et qui me dit « Dieu a vu que... » qu'il avait le cœur blanc. J'ai dit le cœur blanc, elle me dit le cœur pur. Je croyais donc que ça appartenait aux musulmans, cette image. Et je viens d'apprendre il y a peu de temps que Niképhoros, dans Le Grand Marin, à la fin de, qui meurt à la fin du Grand Marin, parlait aussi du cœur blanc. Et lui, il est orthodoxe. Donc, je pense que c'est une image qui est beaucoup plus vaste et qui appartient à beaucoup plus de cultures. Oui. Le cœur blanc, c'est le cœur
pur. Blancheur, la pureté, oui. Oui, c'est ça. Oui. C'est ça. Alors, nous venions de parler de ces deux femmes qui sont les personnages principaux. Évidemment, il y a la tenancière du bar, pas forcément sympathique, mais il y a Rosaline et Mounia, deux personnes attachantes et par certains côtés mystérieuses. Hein, on a envie, mais au lecteur de continuer votre roman finalement. Et elles vivent dans un monde d'hommes. On en a parlé hors antenne. On a parlé de vivre dans un monde d'hommes. Ce sont des hommes rudes, à l'état brut, je dirais, pour la plupart. Certains même sans foi ni loi. Hein. Il y en a deux en particulier qui sont terrorisants, qui naviguent entre le travail, l'alcool et des rencontres éphémères. C'est un monde rude pour Rosalinde et Mounia.
Oui, mais elles viennent de toute façon d'univers rude. Elles ne sont pas des... Elles ont vu la vie, et ce n'est pas parce que ce sont des femmes qu'elles ne sont pas...
Qu'elles ne sont pas aguerries.
Oui, qu'elles ne sont pas aguerries, oui. Au contraire.
Il y a là-dedans, dans cette vie, il y a de la violence, il y a de l'excès, il y a du désir. Et ça, vous en parlez beaucoup, de ces désirs qui sont toujours là. Mais des désirs, je dirais, à l'état brut souvent, parce que les sentiments n'interviennent pas tellement.
Oui, j'ai voulu parler de choses assez brutes. Du désir, et parfois de ces sentiments que certains arrivent très très mal à exprimer, qu'ils expriment par...
Maladroitement, oui.
Maladroitement, un peu violemment quand même de temps en temps. Donc c'était très important pour moi de parler de toutes ces choses, dans les odeurs aussi, ces choses dont on ne parle pas trop, parce que quand même, il ne faut peut-être pas exagérer. Et bien justement, le désir, les odeurs, les sensations,
La sueur, vous parlez de la sueur aussi.
Oui. L'odeur de la sueur chaude au gros du travail, là.
Oui, vous en parlez des sensations, très bien. Oui. Vous parlez justement de ces odeurs, de cette sueur, le plein soleil sur la peau, le froid aussi, quand on doit se pelotonner, qu'on n'est pas assez couvert, qu'on est avec, sur des cartons, la douleur.
Oui.
Ils ne sont pas exemples de douleur, ces travailleurs saisonniers.
Oui, oui. Mais la douleur... La douleur nous accompagne, en fait. Enfin, elle accompagne nos gestes. Lorsque ce n'est pas la grande douleur, le froid, c'est ce qui nous fait nous sentir vivants, ce qui nous fait connaître les saisons. Le chaud, enfin, c'est l'été. Enfin, on est sorti de terre comme les cigales. Et enfin, on brûle. Et
c'est... En vous écoutant, Catherine, je souris parce que je me dis, mais c'est vrai que moi, j'aime bien une température égale hiver comme été. Mais c'est vous qui avez raison, évidemment. Évidemment que la nature, c'est ça.
On sent bien les saisons, on sent... Même dans la maison du Médoc où je vis, les hivers sont quand même très froids.
Et mais vous chauffez quand même, vous chauffez.
Au bois un petit peu, au bois, je me chauffe au bois. Mais c'est quand même froid, ces vieilles maisons. Et donc, je sais que lorsque le printemps arrive, avec cette lumière, c'est un bonheur. Et à chaque fois, je pense, c'est comme les bêtes et comme les arbres. Il y a une...
Vous vivez vraiment en osmose avec la nature, oui.
Oh, j'aimerais bien davantage, je crois que je...
C'est déjà pas mal. On parlait des sensations, c'est vrai que les corps sont très présents, les corps désirants, blessés, profitant de la douceur d'un instant. Par exemple, vous avez des passages très beaux aussi, elles vont, ces femmes en particulier, elles vont au bord de la rivière.
Oui.
C'est un bonheur simple, mais qu'elles absorbent intensément.
Oui, c'est un endroit à part, elles sont loin de tous, loin des regards de tous et de toutes. Elles se lavent aussi, elles lavent leurs vêtements. C'est le moment de la pause.
Oui. Alors pour revenir aux rencontres, vous parliez de désir, mais c'est des rencontres souvent éphémères qui laissent quand même insatisfaits. On voit des hommes qui sont plus ou moins amoureux de Rosaline, même de Mounia d'ailleurs, qui sont... renvoyés dans leur foyer, si je peux dire, c'est pas dans leur foyer, ils sont blessés ou amers. C'est vrai qu'il y a des la tendresse, elle se manifeste comment?
Oui, la tendresse, elle n'est pas très apparente.
Et pourtant, ils sont tous peut-être en quête de tendresse.
Oh oui, tous. Ils sont tous en quête d'amour, en quête de liberté, en quête de... Comme je dis souvent, ils ont tellement soif de quelque chose, que ce soit désir, que ce soit d'amour, mais alors ils se trompent de soif. Ils attrapent un verre, ils attrapent un autre verre.
Ouais,
et...
Ouais.
Et ils ont soif d'eau aussi, vers la fin. Certains, ils ont très très soif d'eau. Les choses premières, en fait, c'est cette... Rosaline dit qu'il faut trouver son puits. Et c'est dans le désert qu'on va le trouver, il faut trouver son eau. Et l'eau qui va vous,
oui,
qui
là,
va vous
sauver. C'est presque symbolique ce que vous dites,
oui,
là,
oui,
aussi, bien,
oui,
sûr.
Oui,
bien sûr. Oui, parce qu'il y a ce désir, que il me semble que c'est, c'est plein de violence, et quand même centré sur soi-même, pas forcément sur l'autre.
Oui, oui. Oui, ils ne se font pas guère de cadeaux à eux-mêmes aussi. Hein.
Oui.
Et Rosaline, c'est vrai, bon, bah, je me suis dit, ben voilà, elle va aimer les hommes, et elle aime les hommes, et on va pas... Mais derrière, il y a une faille aussi, on le sent bien. Ce n'est pas très très important. Je me disais que j'allais choquer avec ce livre. Je me dis, oh, ben, c'est pas grave. Il faut un peu parler des corps, il faut un peu parler de tout ça. Il faut un peu sortir du... Enfin, comme avec Le Grand Marin, je crois pas que j'étais entrée dans la... ni dans l'assurance, ni dans la... le bien-pensant. Mais je me dis, on va un peu quand même titiller un peu les...
Oui, oui, parce que ça nous permet, bon, d'abord de...
Pas de choses un peu crues.
Oui, et de réfléchir à ce qui peut se passer. Bon, on parle de désir, pourquoi on ne parlerait pas de désir? Mais c'est vrai aussi qu'on se rend compte que ce désir-là, il satisfait sur le moment, mais il laisse pas heureux.
C'est une douleur.
C'est voilà.
Pour Rosaline, elle parle du toujours douloureux du toujours douloureux désir.
Oui.
Donc, toujours douloureux plaisir, c'est terrible pour elle, en fait. Il ne faut surtout pas lui toucher la nuque.
Oui, oui, oui.
C'est sa faiblesse, sa langue d'Achille, et elle est perdue. C'est une faiblesse, en fait. Et j'essaie de le dire aussi, de le faire ressentir peut-être que certains verront aussi cette espèce de détresse aussi dans le... Cette peur aussi que ça lui arrive encore et qu'elle soit à nouveau emportée par ça.
Oui.
Ils sont tous emportés par... Alors Mounia, elle est emportée par le cheval fou qui est emprisonné dans sa poitrine,
oui.
Comme elle dit. Et ils sont tous emportés par une douleur, quelque chose en eux qui les travaille, mais ils ne savent pas exactement ce que c'est, ils n'arrivent pas à la cerner, cette douleur sourde, ou cette douleur folle, ou cette douleur, ils ne savent pas. Et une fois de plus, un peu comme avec mes pêcheurs, je voulais parler d'un certain enfermement. Ces gens sont enfermés dans eux-mêmes, comme les marins, les pêcheurs étaient enfermés dans leur propre vie, dans leur propre... la sphère de leur petite vie, de leur petit... Et ils cherchent, et sous cette grande nature... En fait, la nature est, le ciel est béant, mais ils sont enfermés quand même. Ça ne s'ouvre pas.
C'est vraiment très intéressant ce que vous dites, parce que effectivement, on a ce sentiment qu'ils sont enfermés, et en même temps, ils sont ivres de liberté. Ils ne veulent pas d'entrave. Ils ne veulent pas d'attache. Ils ne veulent pas de possession, finalement. Et c'est très curieux, cet antagonisme.
Oui, mais justement, ils n'ont rien dans quoi se projeter.
Ouais.
C'est très important. Au bout d'un certain temps, je pense que dans la vie, on a besoin de se projeter ou dans un combat, ou dans accomplir quelque chose.
Accomplir quelque chose.
C'est vital.
Oui.
Sans ce sentiment d'accomplissement, on n'est pas complet, on reste encore adolescent, enfant. Ils cherchent cette étape.
Oui.
Suivante, mais il ne...
Ah, quand vous parlez d'accomplissement, il y a également cette idée de responsabilité.
Oui, oui, je pense aussi, oui, oui.
Oui. Moi, vous voyez, en vous parlant, je vois tous les personnages qui entrent, parce qu'il y a des hommes aussi. Quels sont les hommes qui sont les plus prégnants dans votre ouvrage?
Moi, j'aime beaucoup Cesario. Et j'aimais beaucoup Hamed, parce que Hamed, c'est lui qui va apporter à Rosaline peut-être de la bonté.
Oui. Césario, il vient de loin.
Du Cap-Vert.
Il est noir. C'est un sage.
Il est créole, oui. Et lui aussi, c'est un fruit de l'immigration, mais c'est l'immigration des années 60. Mmh. Donc, la chute de Salazar, et à ce moment-là, il y a eu les Cap-Verdiens qui ont pu enfin fuir la misère et fuir le. Mais.
Oui.
N'ont-ils pas retrouvé ailleurs beaucoup?
Oui. Oui. Il y a beaucoup d'étrangers chez les travailleurs saisonniers?
Oui. Au temps où j'y étais, en tout cas, il y en avait beaucoup. Aujourd'hui, je n'oserais plus dire. Je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je suis persuadée qu'il y en a beaucoup.
Il y en a beaucoup, probablement, encore. Moi, je croyais qu'il y avait aussi des étudiants, mais apparemment, vous n'en parlez pas.
Oui, il y en a. L'été, il y en a. Pour les vendanges, il y en avait. Aujourd'hui, je ne sais plus, vu que c'est de plus en plus il y a de plus en plus de machines. Dans le livre, il y a quand même une petite étudiante, je crois, ou une petite. Mais c'est avec l'hiver, il y en a. Non, l'hiver, et tout le temps, ils étudient.
Ils sont à la fac ou au lycée.
Ils ont un peu froid, de toute façon.
Oui, en plus, oui, ils sont moins aguerris. Mais vous parliez de Césario, il y a également un jeune aussi, on se dit, mais qu'est-ce qu'il fait là?
Il va se perdre. Qu'est-ce qu'il est heureux? Pour lui, c'est le plus bel été de sa vie. Il ne voit pas tout ce qui se trame, tout ce qui se joue. Il a découvert la liberté. C'est un grand.
On va reparler de la liberté, justement, cette fameuse liberté à laquelle chacun aspire dans cet ouvrage. On va écouter. Peut-être, là, pour le coup, c'est Césaria Ivoria. C'est peut-être du jazz, tout simplement. Oui. Peut-être Béchette. Pourquoi pas?
Oui.
Parole d'auteur, Monique Fauché.
Toujours en compagnie de Catherine Poulain qui nous parle de son nouveau roman, Le Cœur Blanc, paru aux éditions de L'Olivier. Et bien, écoutez, pendant la pause musicale, on parlait du Grand Marin, ce livre qui a fait tant parler de lui, qui a été traduit dans je ne sais plus combien de langues, et puis sans doute que celui-là suivra le même chemin. Et Le Grand Marin me faisait penser à un ouvrage paru dans la collection Terre Humaine qui s'appelait Le Grand Métier. Et c'était les pêcheurs Terra Nova. Oui. Et c'était très rude. Bon, et là, c'était pas un roman, hein. Donc, c'était vraiment, je pense, un ethnologue, anthropologue, sociologue. Enfin, peu importe, ça, tout ça se jouxte. Et c'était passionnant aussi. Et c'était ce milieu quand même difficile, âpre, dur, et où on se confronte à la nature. Comme là, dans votre ouvrage, en fait. Les hommes et les femmes se confrontent à la nature.
Oui, oui.
Ces hommes qui sont présents, il y a de tout. Il y a les brisés, il y a les mutiques, il y a les grandes gueules, il y a les violents, les méchants. Il y a tout ça.
Et oui, c'est une palette. C'est une.
Vous croyez que c'est un microcosme qui ressemble à la société extérieure?
Je pense. Oui. Je pense. J'ai créé ce petit village enfermé dans des remparts entre les montagnes. Et je me suis dit, donc cette petite société, là, ça va fermenter un peu, ça va chauffer. Les problèmes entre les habitants du village et puis ces troupeaux de boissons soif et qui débarquent. Donc une tension va monter aussi. Et...
Oui, parce que ce ne sont pas des enfants de cœur, si je peux
non,
me permettre.
Non, pas du tout, pas du tout.
Quand ils ne travaillent pas, ils boivent énormément, ils se droguent pour beaucoup.
Certains, oui, pas mal. Pas tous, oui.
Oui, il y a cette pauvre Loulou qui va d'overdose en overdose et qui va finir par mourir.
Oui.
Hein, c'est le lot de certains, effectivement.
Oui, c'est là. La dégringolade, oui.
La dégringolade. Est-ce que ça ne fait pas peur, ça, ce danger? Parce que quand on n'a aucune attache, aucune barrière, une forme de liberté, on pourra parler de la liberté d'ailleurs, est-ce que ça ne fait pas peur d'être susceptible justement de dégringoler?
Oh, moi ça ne m'a jamais fait peur parce que j'avais trop envie de vivre, j'étais trop vivante.
Vous étiez particulièrement solide.
Je ne suis
pas physiquement.
J'aimais bien aussi la vie extrême. Je me disais, la vérité doit être là-dedans. Mais je veux dire, je tenais trop à faire des choses, à aller plus loin pour me laisser arrêter. Je pense que Loulou, comme d'autres personnes, elle a souffert de beaucoup, beaucoup de choses et la chute est lente. Et puis il y a des histoires avec la justice qui font que ça s'envenime, qui fait que... Il y a aussi la petite Esmeralda, évidemment, son ventre s'arrondit, et c'est vrai qu'elle, ça va pas, c'est pas très très joli. Alors elle, pour certains, c'est juste une lornière, ils sont d'une sale habitude, ils sont dans une petite société bien close, là, et les sales manies, les sales habitudes, ben on est dedans, puis il y a une petite sécurité aussi, ils ont trouvé leur petite sécurité, justement, dans ce petit marasme, mais ce petit
ouais.
cette et petite défense quotidienne.
Cette liberté à laquelle ils tiennent tant, est-ce qu'elle n'est pas factice finalement? Parce que cette liberté, ils sont toujours en train de courir après une embauche.
Qu'est-ce que la liberté déjà? Qu'est-ce que la liberté? On rêve tous de liberté. Non, je dirais pas qu'ils sont plus libres. Peut-être certains. Abdelman, quand même, le petit qui sort de ses banlieues, il découvre quelque chose qu'il n'avait jamais connu. Dormir dehors, s'endormir dans les, rouler au bord de la digue, dans les odeurs de l'été, le chant des criquets. Césario est libre, lui, mais lui aussi, il fait vraiment les saisons. Il va de saison en saison, de pays en pays, mais il a atteint une certaine sagesse. Je pense qu'une liberté existe, mais il ne faut pas se leurrer. Et c'est pour ça qu'au bout de quelques années, j'étais fatiguée de la France. Je me dis, on va aller partir un peu à l'étranger, voir dans des espaces un peu plus vastes comment ça se passe, les saisons.
Alors, cette envie d'un ailleurs, c'est rêver de quelque chose de mieux ou c'est une curiosité intense?
Avant tout, c'est une curiosité intense, et puis c'est une insatisfaction. Je ne veux pas m'arrêter à ça. Je veux voir plus, moi, je veux faire plus, je veux aller plus loin, je veux aller plus fort, je veux aller plus... Allez, je fais que commencer, là. Connaître d'autres... Non, une grande curiosité, un appétit. C'est l'appétit.
Oui. Parce que je m'interrogeais là aussi en lisant votre ouvrage, parce que ce besoin d'ailleurs, ce besoin d'aller, par exemple, Thomas s'en va, il laisse Mounia, elle est, je me dis, bon, il s'en va, mais qu'est-ce que c'est ce perpétuel départ, ce perpétuel abandon, entre guillemets?
Oh ben lui, il est largué, hein, il est parti pour la poudre.
Oui. Oui.
Il est... C'est un faible. Certaines personnes dans notre quotidien, dans n'importe quel milieu, sont des faibles et sont... Bon, il a aussi découvert l'héroïne et c'est un truc qu'il ne peut pas oublier parce que c'est une amante oui, impitoyable et qu'on n'oublie jamais, comme il dit. Mais...
en tout cas, bon, pour la plupart, ils ne veulent pas d'entrave. Il n'y a pas de bien, pas d'amour. Oui, c'est un chien, parfois.
Oui. Oui. Un chien.
Alors, vous savez, Catherine, je vous l'ai dit tout à l'heure, hors antenne, je me disais qu'il y avait un côté franciscain chez certains de vos personnages. Parce que, bon, les valeurs qu'on prête à Saint-François, c'est la pauvreté, le dénuement même, la simplicité des choses, et l'émerveillement face à la création. Et quand vous parlez du soleil, quand vous parlez du ciel, de la nature, des animaux, il y a énormément d'animaux dans votre livre, on atteint une forme de spiritualité. Est-ce que je me trompe?
Peut-être. Heureusement, j'ai gardé tous mes écrits, j'ai retrouvé tous mes carnets de lorsque j'étais saisonnière, et j'ai retrouvé cette grande jubilation, bah, à être vivant et à vouloir, un peu comme la petite Mounia, une plus grande brûlure avec le soleil, des épousailles folles avec l'été, et c'était, oui, baigné dans tout ça.
Oui.
Dans cette nature, et c'était toujours la recherche de cette unité qu'on ne trouve jamais, et qu'on voudrait trouver dans cette nature, dans le vent, avec le vent, dans ce soleil, et cette recherche constante, peut-être comme mes personnages aussi.
Oui.
Se retrouver, et recoller les morceaux, et trouver l'unité.
Et pas de jugement sur les autres, un regard plutôt compatissant.
Oui, non, pas de jugement, jamais. C'est pas à moi de... On ne peut pas juger... Ils sont là. Ce n'est pas un témoignage, c'est juste un... Ce sont des personnages, c'est une constatation. Ils sont comme ça. Ce sont des images.
Alors, on ne parlera pas de la fin, mais c'est vrai qu'il y a une montée croissante. On parle du soleil, on parle de la chaleur, et cette chaleur va devenir excessive ô combien. Là aussi, symboliquement, c'est comme une purification, je me disais. C'est quelque chose de symbolique, oui, effectivement. Enfin, là, au lecteur d'en tirer des conclusions, moi, je... Je parlerai aussi rapidement du style, parce que les mots sont d'une rare beauté. On l'a entendu tout à l'heure lorsque vous avez lu deux extraits. Il n'y a pas de ponctuation, c'est comme le halètement d'un animal parfois, parce que dans les propos aussi des gens qui parlent, qui s'expriment. À un moment donné, tenez, pour terminer, si vous permettez, je vous lis un passage.
Oui.
Le chant glacé et mélodieux de la rivière, sa peur, le poids terrible d'une attente folle entre les remparts des montagnes qui la cernent. Mais quelle attente, cette épée qu'elle pressent toujours, suspendue dans la nuit des arbres qui l'écrasent, sur son cœur blanc, sa tête rousse de gibier des bois. Oh, que tout éclate enfin pour que tout s'arrête. Voilà, on va s'arrêter là.
Oui.
Un grand merci, Catherine Poulain.
Merci à vous.
Je rappelle à nos auditeurs qu'il s'agit du roman intitulé Le cœur blanc de Catherine Poulain, paru aux éditions de L'Olivier. Au revoir.
Au revoir.